6-9 du week-end sur France Inter.
Patricia Martin, vous recevez la journaliste et écrivaine Clara Dupont-Monod pour son roman historique « La Révolte » paru chez Stock.
Clara Dupont-Monod, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors,
à tous.
La Révolte, c'est un petit peu Aliénor d'Aquitaine suite, parce qu'il y avait eu le roi disait que j'étais le diable. Là, elle était mariée à Louis VII, et maintenant, elle a changé de mari, elle est mariée à Henri Plantagenet. Voilà. Nous sommes en 1152, lui, il est roi d'Angleterre et d'Irlande, il est plus jeune qu'elle.
11 ans de plus jeune, oui, plus jeune. Ouais, ce qui fait d'Aliénor la première cougar de notre histoire.
Mais elle s'imagine peut-être à un moment donné qu'elle va n'en faire qu'une bouchée.
Oui, le drame d'Aliénor d'Aquitaine, c'est qu'elle a sous-estimé son mari, son adversaire. C'est-à-dire que quand il l'épouse, elle se dit « bon, celui-là, je vais à peu près manier la danse, mener la danse ». Elle aime le pouvoir, ce qui est déjà assez difficile à assumer pour une femme en 2018. Alors, au Moyen-Âge, je vous imaginez. Dis pas. Voilà. Et en fait, il va lui faire 8 enfants. Comme elle en avait eu 2 avec Louis VII, ça en fait 10 en tout. Et en 1154, elle convoque ses enfants, dont ses 3 fils, parmi lesquels Richard Cœur de Lion, et elle leur dit « Venez les enfants, on va renverser papa ». À quoi les enfants répondent « Mais quelle bonne idée
ben !» oui.
Et Aliénor d'Aquitaine lève une armée quasiment européenne, tout en allant gratter à la porte de son ex Louis VII, en lui demandant de venir l'aider. Donc la symbolique pour Louis VII est terrible, parce que est-ce que tu peux venir m'aider à éliminer...
Parce que lui, il avait été fou d'elle quand même.
Il était très amoureux d'elle. Les chroniqueurs ont écrit, il l'aimait pour ainsi dire à la manière d'un enfant. Donc il était éperdu d'amour pour elle, et a priori ça n'était pas très réciproque. Mais en tout cas, voilà, Aliénor d'Aquitaine qui lance la révolte contre le Plantagenet, qui à ce moment-là en effet est empereur, c'est-à-dire que son empire s'étend du nord de l'Écosse au sud des Pyrénées, c'est immense, et Aliénor l'attaque.
Elle l'attaque, ce sont quand même deux fauves, deux monstres qui sont prêts à s'entretuer, mais qui ont quand même des idéaux communs, le Plantagenet et Aliénor.
Alors, des idéaux communs, oui, mais ceux d'Aliénor me semblent un petit peu en retard par rapport à ceux du Plantagenet. Aliénor, elle a une logique de seigneur féodal. Elle dit « pas touche à mon Aquitaine ». L'Aquitaine, je le rappelle, au Moyen-Âge, c'est immense. Ça va de Poitiers au sud des Pyrénées en débordant sur l'Auvergne. Donc Aliénor est une proie. Qui épouse Aliénor épouse ces terres-là. Donc elle, qui est chasseur dans le fond, se sait proie, d'où sa colère aussi. Le Plantagenet, a priori, il était plus porté vers l'idée de « on va faire une monnaie commune, une loi commune, une langue commune ». On pourrait dire rétrospectivement que c'est presque lui qui est plus visionnaire qu'elle, finalement.
Donc alors, elle demande à ses fils d'aller tuer leur père, donc ça c'est assez sympa dans la vie de quelqu'un. Quels étaient ses rapports avec Richard Cœur de Lion? C'était son préféré?
Les historiens disent aujourd'hui que c'était a priori son fils préféré. Il y a un truc entre les deux. C'est la voix. Alors c'est pour ça que j'ai pris le point de vue de Richard. Hein. Mais cette parole d'enfant éperdu d'amour pour sa mère, qui est extrêmement impressionnante, qui est dure aussi, mais qui donne pas de mots tendres, mais qui manifeste sa tendresse par des actes, par exemple.
Elle lui a donné son Aquitaine, ce qui était quand même
déjà
peut-être l'acte suprême.
Elle en fait le duc d'Aquitaine, absolument. Ouais. Et puis c'est cette espèce de maintien. Bon, alors après ça c'est la romancière qui parle, c'est pas du tout, pas du tout historien, hein, mais. Quelle allure, quoi. Aliénor, c'est une femme debout, quand même. Ouais. Moi, je comprends presque Richard. Je pense que j'ai adopté son point de vue parce qu'il devait... Je pense qu'inconsciemment, je me suis dit, il l'aime autant que moi, j'aime Aliénor d'Aquitaine.
Mais vous écrivez mère et fils, une seule et même armée.
Oui, absolument. Après, c'est le Moyen-Âge. Pour qui la guerre n'est pas sale, pour qui la violence n'est pas quelque chose qu'on met sous un couvercle. Moi, je suis toujours très frappée en 2018 quand j'entends les expressions remercier quelqu'un pour dire licencier. C'est extrêmement violent. Et cette violence-là avance maquillée en 2018 puisqu'on la cache sous des beaux mots. Au Moyen-Âge, elle n'est pas niée. Elle est... codifiée, on tente en tout cas de la codifier. Il est interdit de tuer quelqu'un à la fin d'un tournoi. Saint Augustin invente le concept de guerre juste. On essaie de lutter contre les guérillas privées. Évidemment qu'après, l'Église va trahir ses idéaux avec l'Inquisition, etc. Mais il y a une tentative de cadrer la violence qui est inhérente à toute société humaine. Ça n'est pas hypocrite. Et c'est là où parfois je me demande, entre le Moyen-Âge et notre 21e siècle, lequel des deux est le plus barbare.
Alors, Aliénor, qui est un superbe sujet de roman, là j'imagine que la romancière que vous êtes s'est régalée. Est-ce qu'elle a, elle a véritablement un... Vous disiez qu'elle avait un petit peu un temps de retard par rapport au Plantagenet, comme vous l'appelez.
Politiquement, oui,
politiquement, il me semble. Voilà. Mais est-ce que c'est quand même une femme politique? Elle a un sens politique.
Elle a assez un sens politique. Et puis, c'est un animal politique, en fait, Aliénor. C'est ça que j'aime beaucoup.
Elle aurait son équivalent aujourd'hui?
Ah, je sais pas, parce que... Ah, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a pas laissé beaucoup d'héritières. Après elle, il n'y a pas eu une école à Aliénor. Elle était très seule, à l'époque. Elle n'est pas portée par une cause collective, puisque ça n'existe pas. On peut en faire une féministe avec nos yeux d'aujourd'hui, certes, mais ça voulait pas dire grand chose à l'époque. C'est quelqu'un qui assume absolument ce qu'elle est. Elle aime gouverner. Elle a été deux fois reine.
Elle est cultivée. Elle est
extrêmement
les artistes,
cultivée.
Elle permet aussi à ses filles, puisqu'elle a un certain nombre de filles dans le paquet d'enfants qu'elle a eu, parmi les 10 enfants, il y a eu des filles. Elle les a amenées à lire et à écrire, à apprendre.
Oui,
ça,
son grand-père s'appelait Guillaume le Troubadour et ça a été notre premier poète national. C'est l'inventeur, dit-on, de l'amour courtois. Donc Aliénor, elle descend de là. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a dit quand même au troubadour, voici le gîte et voici le couvert, et écrivez-moi des histoires. En quelque sorte, elle a été le premier ministre de la culture, de ce qui n'est pas encore la France, bien sûr, mais quand même, l'éclosion de la table ronde du roi Arthur, etc. Et quand vous dites qu'elle est politique, elle invente le premier coup de génie de marketing politique. Quand le Plantagenet s'installe en Angleterre, il a du mal à se faire accepter, et elle lui dit, eh ben c'est très simple, il paraît qu'il y a une tombe d'un prénommé roi Arthur quelque part en Angleterre. Il me semble qu'il y a une histoire d'épée avec une pierre, Excalibur. On n'a qu'à dire, dit-elle au Plantagenet, que tu descends, ta famille descend du roi Arthur. Coup de génie. Et c'est comme ça qu'elle auréole le pouvoir de magie. Et ça marche. Donc ça, c'était vraiment la com politique avant l'heure.
Mais est-ce qu'elle n'a pas un peu trahi tout de même la France, même si la France n'était pas la France à l'époque?
Oui, alors
certains historiens le lui ont reproché.
Oui, alors après...
Michelet, par exemple.
Michelet, bien sûr, mais alors Michelet reprochait beaucoup de choses aux femmes en général, et en particulier au Moyen-Âge. Mmh. Mais quand on sait qu'après il y a eu la guerre de 100 ans, on a beaucoup dit, et ce qui n'est pas faux, que le fait qu'Aliénor quitte le roi de France... Quand même, c'est ça l'histoire. Elle quitte le roi de France pour partir avec le roi d'Angleterre et que la guerre de Cent Ans n'est pas très loin. Juste un dernier petit mot, si on a le temps.
Mais vous avez le temps, on a deux minutes.
Sur l'idée de ce Moyen-Âge aussi, parce que vous me demandiez ce qu'elle représente, mais c'est aussi tout ce Moyen-Âge qu'on a tellement tendance à présenter de façon négative dans les médias. Quand j'entends le mot moyenâgeux, et ça me rend folle. Et Aliénor est ce Moyen-Âge magnifique, avec un maintien, avec une truculence, avec un appétit, qui a tout inventé. Par exemple, on invente la lecture silencieuse au XIIIe siècle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide de lire pour soi? Tout ce que invente le Moyen-Âge, et pour moi, Aliénor est aussi la symbolique de cette période qui a tout fait.
Et elle a nourri les imaginaires, après.
Ah oui, alors en plus, Aliénor, on n'a pas de traces de son physique.
Vous la représentez comme une femme très belle, avec des yeux gris qui déteignent même sur ceux qui la regardent.
Oui, les yeux d'armure. Alors au Moyen-Âge, la beauté est blonde, la sorcière est plutôt brune. Alors vous auriez été, Patricia Martin, une magnifique iseute. Moi, j'aurais été sur le bûcher instantanément. Mais du coup, j'aime bien imaginer Aliénor avec des... Ouais. On peut tout... Le romancier se nourrit des vides qui sont le cauchemar de l'historien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité intéressante. Là où l'historien s'arrache les cheveux sur des blancs, le romancier s'en nourrit. Donc moi, je lui donnais des beaux cheveux châtains et des yeux gris. Mais on ne saura jamais.
On ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte très âgée.
82 ans, en 1204. Ce qui est exceptionnel, après 10 enfants.
La révolte, vous l'avez commencé ce livre, mais vous l'avez oublié dans un hôtel, c'est malin.
Mais Aliénor aurait adoré être oublié dans un hôtel.
Une dernière question, ça fait quoi d'être parmi les 15 derniers concourables?
C'est une vraie reconnaissance. Ça touche et c'est une très bonne nouvelle.
Mais c'est pas la première fois, il faut le dire.
Oui.
Donc il faut pas lui porter la poisse.
On dit rien. Voilà. Merci à toutes les deux, Clara Dupont-Monod. Je rappelle donc ce livre La Révolte, paru chez Stock. Merci à toutes les deux, il est 7h58.